Première partie, exposition biblique, chapitre 1. Le message à l'église divisée de Corinthe. La puissance de Dieu manifestée, non par la sagesse humaine, mais par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le contexte de la rédaction de la première épître aux Corinthiens. Pour comprendre première épître aux Corinthiens, nous devons d'abord examiner la relation entre l'apôtre Paul et l'église de Corinthe, ainsi que les divers problèmes qui se sont produits au sein de l'église de Corinthe à cette époque. Première épître aux Corinthiens n'est pas un simple manuel doctrinal, mais une épître pastorale très pratique, écrite par l'apôtre Paul, pour résoudre les problèmes qui se sont réellement produits au sein de l'église. Tout d'abord, l'église de Corinthe était une église établie par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Cet événement est relaté dans Actes 18. Paul est resté à Corinthe pendant environ 1 an et 6 mois pour prêcher l'évangile. Et par conséquent, une église où juifs et grecs se rassemblaient a été établie. Corinthe était une ville commerciale très importante dans l'Empire romain à cette époque. En termes d'aujourd'hui, c'était comme une ville de commerce international. Située sur l'isthme reliant la Grèce continentale et la péninsule du Péloponnèse, cette ville était le centre par lequel passait le commerce est-ouest. Diverses ethnies et cultures y étaient rassemblées, et bien qu'elle fût économiquement très prospère, elle était célèbre pour être une ville moralement très corrompue. En particulier, il y avait le temple d'Aphrodite à Corinthe, où se trouvaient de nombreuses prostituées sacrées, et la ville entière était profondément influencée par une culture d'immoralité sexuelle et d'idolâtrie. Parce que l'Église a été établie dans un tel environnement, la culture et les valeurs du monde ont continué à s'introduire également dans l'Église. Même après que Paul a quitté Corinthe, l'Église a continué à croître, mais en même temps, divers problèmes ont commencé à survenir. Ces problèmes constituent le contexte direct de la rédaction de première épître aux Corinthiens. Le premier problème était la division qui a surgi au sein de l'Église. Des factions se sont formées dans l'Église car certaines personnes disaient suivre Paul, d'autres Apollos et d'autres Pierre. Ce problème apparaît dans première épître aux Corinthiens 1. Paul a considéré cela comme un problème très sérieux. C'est parce que l'Évangile ne consiste pas à se rassembler autour d'hommes, mais à devenir un autour de Christ. Le deuxième problème était qu'une grave corruption morale s'était introduite dans l'Église. Même s'il y avait un cas où quelqu'un vivait avec la femme de son père, l'Église ne le traitait pas correctement. Paul réprimande fortement cela et dit que l'Église doit restaurer sa sainteté. Le troisième problème concernait les disputes entre les saints. Le fait de porter les problèmes internes de l'Église devant des tribunaux séculiers et de se poursuivre mutuellement en justice s'est produit. Paul souligne que c'est une chose qui détruit le témoignage de l'Église. Le quatrième problème concernait les questions sur le mariage et le célibat. À cette époque, les saints éprouvaient beaucoup de confusion quant à savoir s'ils devaient se marier, si le célibat était préférable et s'ils devaient vivre avec un conjoint non-croyant. Paul fournit des directives pratiques pour ces questions. Le cinquième problème était la question de la nourriture offerte aux idoles. Parce que Corinthe était une ville avec une idolâtrie très forte, la plupart de la viande vendue sur le marché était liée aux sacrifices aux idoles. Certains saints pensaient qu'une idole n'est rien et mangeait librement, mais d'autres saints ne pouvaient pas l'accepter pour des questions de conscience. À cause de ce problème, un conflit a éclaté au sein de l'Église. Le sixième problème était la confusion dans l'ordre du culte. En particulier, de nombreux problèmes le sont apparus lors de la scène du Seigneur et dans l'utilisation des dons spirituels. Lors du partage de la scène du Seigneur, il y avait des cas où les pauvres étaient ignorés et l'ordre était également rompu dans le processus d'utilisation des dons tels que le parler en langue et la prophétie. Le septième problème concernait les fausses pensées sur la résurrection. Certaines personnes niaient même la résurrection des morts. Paul explique très fortement l'évangile de la résurrection dans 1 Épître aux Corinthiens 15. Il dit que la résurrection de Christ est le centre de l'évangile et que sans elle, la foi est également vaine. En résumant toutes ces situations, 1 Épître aux Corinthiens a été écrite pour deux raisons. L'une était de corriger les divers problèmes signalés au sein de l'église de Corinthe et l'autre était de répondre aux questions que les saints avaient envoyées à Paul. En fin de compte, 1 Épître aux Corinthiens n'est pas simplement une lettre soulignant des problèmes, mais une lettre qui montre à nouveau sur quoi l'Église doit se tenir. Paul souligne le fait que le centre de l'Église ne doit pas être une personne, ni la culture, ni la philosophie, mais seulement l'Évangile de Jésus-Christ. Par conséquent, on peut dire que 1 Épître aux Corinthiens est un livre qui répond à la question « Sur quoi l'Église se tient-elle adressé à une église au milieu de la confusion. Quelle est la différence entre l'église de Dieu et l'église du monde? Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Première épître aux Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 3. L'Église de Dieu et l'Église du monde peuvent bien sembler ne présenter aucune grande différence lorsqu'on regarde leur apparence extérieure. C'est parce que toutes deux utilisent la Bible, tiennent des services de culte, chantent des cantiques et écoutent des sermons. Cependant, en regardant selon la norme de la Bible, une différence fondamentale existe entre les deux églises. Cette différence ne réside pas dans le bâtiment ou l'organisation, mais dans le contenu de l'Évangile et la foi qui croit en cet Évangile. Tout d'abord, l'Église de Dieu est l'Église établie par Dieu. Dans la Bible, l'Église ne signifie pas une institution religieuse créée par des humains, mais un rassemblement de personnes qui croient en l'Évangile de Jésus-Christ. Actes chapitre 2, verset 47 déclare « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ». C'est-à-dire que l'Église n'est pas une organisation créée par des personnes recrutant des membres, mais une communauté formée par Dieu qui rassemble ceux qui ont été sauvés. Au centre de cette Église, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est témoigné. Elle témoigne de l'Évangile selon lequel Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, a reçu le jugement des péchés sur la croix et est ressuscité de la mort pour sauver ceux qui croient. L'Église de Dieu est une communauté qui croit en cet Évangile de l'eau et de l'Esprit et qui témoigne de cet Évangile. Par conséquent, cette Église de Dieu n'exige pas la justice humaine, mais se tient centrée sur la rédemption de Jésus-Christ. D'autre part, l'Église du monde utilise extérieurement le nom d'une Église, mais son centre n'est pas sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est placé sous un système religieux. Dans une telle Église, la norme du salut n'est pas placée sur la parole de vérité selon laquelle Jésus a reçu le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui et a reçu le jugement des péchés sur la croix. Par conséquent, le centre du sermon comporte également davantage d'exigences de morale et d'exhortations envers les membres de l'Église, telles que « vivez plus gentiment, servez plus diligemment, soyez plus dévoués et soyez plus fidèles », plutôt que le ministère du baptême de Jésus et le ministère de la croix qui a reçu la punition des péchés. Dans cette structure, l'assurance de l'Évangile selon laquelle le problème du péché humain a été fondamentalement résolu s'affaiblit, et la foi dégénère facilement en devoirs religieux ou en culture. Une autre différence importante est la question de savoir qui est le propriétaire de l'Église. Dans l'Église de Dieu, le chef de l'Église est uniquement Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 23 dit « Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous ». Par conséquent, la direction et la norme de l'Église de Dieu ne visent pas les pensées humaines ou les tendances de l'époque, mais la parole de Dieu et la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, l'Église du monde se meut souvent en étant centrée sur l'influence humaine, le maintien de l'organisation, l'expansion du pouvoir de l'Église et l'influence sociale. Lorsque cela se produit, le maintien et la croissance de l'institution organisationnelle deviennent un objectif plus important que l'essence de l'Église. De plus, une différence apparaît dans la manière de traiter le problème du péché. L'Église de Dieu enseigne clairement la parole évangélique de l'eau et de l'Esprit, en prêchant le fait que Jésus a reçu le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, ce qui s'est terminé par le jugement des péchés sur la croix. Elle témoigne que, par la parole selon laquelle Jésus a reçu le baptême, ayant ainsi les péchés du monde transférés sur lui, a reçu le jugement pour les péchés sur la croix et est ressuscité de la mort, il a lavé les péchés des gens et a donné le salut à ceux qui croient. À cause de cela, elle proclame clairement que le salut est obtenu non par les œuvres humaines, mais par la foi qui croit en la justice de Dieu. Cependant, dans l'Église du monde, parce qu'ils doivent résoudre tous les péchés que les membres de l'Église commettent, ils mettent l'accent sur les prières de repentance et les prières pour devenir sanctifiés. Dans cette structure, les membres de l'Église vivent leur vie religieuse en souffrant toujours de culpabilité et de douleur. En fin de compte, la différence la plus fondamentale entre les deux églises est celle-ci. L'Église de Dieu est une église établie sur la parole évangélique de l'eau et de l'Esprit. et l'Église du monde devient une Église établie sur les doctrines théologiques de sa dénomination. L'Église de Dieu est une communauté de ceux qui croient en la vérité selon laquelle Jésus-Christ a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et a reçu le jugement des péchés sur la croix pour donner le salut à ceux qui croient. Cependant, l'Église du monde est devenue une communauté qui vit pour le développement de la dénomination, centrée sur des systèmes théologiques établis par des humains et des activités religieuses, plutôt que sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par conséquent, la Bible pose une question plus importante à nous tous. Ce n'est pas « à quelle Église est-ce que j'appartiens ?» mais « est-ce que je crois en la véritable parole évangélique de l'eau et de l'Esprit dans mon cœur ?» La Bible dit que l'Église est le rassemblement de ceux qui ont reçu l'enlèvement des péchés en croyant dans leur cœur au Seigneur qui a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, a été mis à mort sur la croix et est ressuscité. Paul dit qu'il est appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Cette confession ne se limite pas seulement à l'apostolat. Cela signifie que le Seigneur place le but de l'appel de Dieu dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Lorsqu'on considère l'appel que Dieu nous adresse du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il ne réside pas dans des accomplissements religieux bâtis par sa propre détermination, mais dans la prédication de l'Évangile destiné à s'accomplir dans le but du salut que Dieu lui-même a planifié et accompli. Par conséquent, prêcher au monde entier la parole évangélique de l'eau et de l'Esprit, que Jésus a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et a accompli l'achèvement du salut en versant son sang sur la croix, apparaît comme la volonté de Dieu. À quoi font référence les dons accordés par Dieu ? Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui, qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 9. Les dons accordés par Dieu font référence aux talents que Dieu donne gratuitement à ceux qui croient. Les dons ne sont pas des qualifications ou des récompenses qu'une personne obtient par l'effort, mais des talents que Dieu nous dit d'utiliser pour sa volonté et pour l'Église. C'est pourquoi la Bible appelle cela un don. Le mot « don » lui-même a le sens d'un cadeau de grâce donné gratuitement. Les dons dont parle la Bible peuvent être compris principalement selon deux sens. Le premier est que le salut accordé par Dieu est en lui-même le plus grand don. Et le second est qu'ils sont divers talents donnés à ceux qui sont sauvés pour prêcher l'Évangile. Le don dont il était question ici est, à savoir, le don du salut reçu en croyant en la justice de Jésus-Christ. Parce qu'une personne ne peut pas devenir juste devant Dieu par ses propres œuvres, Dieu le Père a sauvé de leurs péchés ceux qui croient à travers le baptême que Jésus a reçu de Jean et le jugement de la croix. Et à ceux qui ont reçu l'enlèvement des péchés, il a donné le Saint-Esprit de Dieu comme un don. La parole de la Bible distribue les dons du Saint-Esprit à ceux qui croient en la parole évangélique de l'eau et de l'Esprit, pour être délivrés de leurs propres péchés. Ces dons ne sont pas pour la gloire personnelle, mais sont des talents pour servir l'Église de Dieu. 1 Épître aux Corinthiens 12, en expliquant ces dons, dit que le Saint-Esprit a distribué divers dons à chaque personne, par exemple la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, les dons de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues y sont mentionnés. Cependant, ce qui est important ici, c'est le but des dons. Le but pour lequel Dieu donne des dons n'est pas pour l'individu, mais pour l'Église de Dieu et pour les amener à servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Éphésiens 4 dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et il en explique la raison ainsi. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 12. De plus, les dons accordés par Dieu sont donnés différemment à chaque personne. Tout le monde ne reçoit pas le même don. Certaines personnes ont le don d'enseigner, d'autres ont le don de servir et d'autres ont le don de prêcher l'Évangile. Romains 12 parle de divers dons tels que la prophétie, le service, l'enseignement, l'exhortation, la libéralité et la présidence et exhorte à servir l'Église selon le don que chaque personne a reçu. Par conséquent, les dons dont parle la Bible ont trois caractéristiques importantes. Troisièmement, les dons sont donnés de manière variée à différentes personnes. Ainsi, L'Église est une communauté formée par des personnes ayant des dons différents. En fin de compte, au centre des dons accordés par Dieu, il y a toujours le but de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et le but de servir le rassemblement de l'Église. Dieu donne à certaines personnes le don de comprendre et de prêcher la parole de Dieu et donne à d'autres le don de servir les saints afin que les membres coopèrent les uns avec les autres et grandissent. Par conséquent, la Bible enseigne de ne pas faire des dons un objet de vantardise, mais de les utiliser humblement comme des outils pour servir Dieu et édifier l'Église. Les dons accordés par Dieu ne sont finalement pas destinés à élever les personnes, mais ce sont des dons pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'Esprit de Dieu, afin que l'Église de Dieu puisse être établie sur cette terre. Paul dit à l'Église de Corinthe qu'il ne leur manque aucun don spirituel en lui. La raison pour laquelle cette déclaration est possible est qu'il se tenait déjà sur l'Évangile achevé de l'eau et de l'Esprit. Lorsqu'on regarde du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, les croyants sont ceux qui ont déjà été sauvés de leurs propres péchés, et non ceux dont les péchés n'ont pas encore été résolus. Au contraire, ils sont ceux qui ont été établis pour prêcher la parole évangélique de l'eau et de l'Esprit, en croyant au salut déjà accompli en Jésus-Christ. Pourquoi des conflits surviennent-ils dans l'Église de Dieu? Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi d'Apollos. Et moi de Céphas. Et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 17. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 17. Les raisons pour lesquelles des conflits surviennent dans l'Église de Dieu peuvent extérieurement ressembler à divers problèmes. Mais du point de vue de la Bible, les causes fondamentales peuvent être résumées en quelques points. L'Église est une communauté établie par Dieu, mais parce que les personnes qui la composent sont encore des êtres humains faibles, divers conflits peuvent apparaître. Premièrement, les conflits surviennent lorsque les pensées charnelles d'une personne prennent le dessus. L'apôtre Paul, en soulignant les conflits au sein de l'Église de Corinthe, dans 1 Épître aux Corinthiens 3, dit « Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Bien que l'Église soit une communauté spirituelle, lorsqu'une personne met ses propres pensées, son orgueil, ses émotions et ses intérêts en premier, des conflits se produisent naturellement. Lorsqu'un esprit égocentrique prend le dessus plutôt que d'être centré sur Dieu, les conflits commencent. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Bien que l'Église soit une communauté spirituelle, lorsqu'une personne met ses propres pensées, son orgueil, ses émotions et ses intérêts en premier, des conflits se produisent naturellement. Lorsqu'un esprit égocentrique prend le dessus plutôt que d'être centré sur Dieu, les conflits commencent. Bien que l'Église soit une communauté spirituelle, lorsqu'une personne met ses propres pensées, son orgueil, ses émotions et ses intérêts en premier, des conflits se produisent naturellement. Lorsqu'un esprit égocentrique prend le dessus plutôt que d'être centré sur Dieu, les conflits commencent. Deuxièmement, les conflits surviennent lorsqu'on regarde l'Église en se centrant sur les personnes. Dans l'Église de Corinthe, Des factions telles que « Je suis de Paul » et « Je suis d'Apollos » ont surgi. Paul réprimande cela et dit « Qu'est-ce donc que Paul et qu'est-ce qu'Apollos ? Le centre de l'Église n'est pas une personne mais seulement Jésus-Christ et le but est la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, lorsque les gens commencent à juger leur foi en se centrant sur des dirigeants, des traditions, des organisations ou des figures spécifiques, des prises de parti et des conflits surviennent naturellement. Troisièmement, les conflits surviennent lorsque l'essence et le but de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne sont pas compris avec précision. Même dans l'Église primitive, des conflits ont surgi en raison de différences dans la compréhension de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dans Actes 15, un grand débat a eu lieu sur la question de la loi. Certains soutenaient que les païens devaient également être circoncis pour être sauvés. Mais les apôtres ont réaffirmé l'essence de l'Évangile et ont clairement indiqué que le salut s'accomplit non par les œuvres humaines, mais par la parole de vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit donné par Dieu. Si d'autres normes prennent le pas sur le but de prêcher l'Évangile au sein de l'Église de Dieu, des conflits spirituels surviennent facilement. Quatrièmement, les conflits surviennent lorsque le but de l'Église est oublié. L'Église n'est pas une organisation qui recueille les opinions des gens, mais une communauté dont le but est d'établir l'Église de Dieu pour témoigner de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, lorsque le but de l'Église devient flou et que les opinions personnelles, les émotions, les intérêts et l'honneur en deviennent le centre, des conflits surviennent. Dans de tels cas, les gens essaient de prouver que leurs propres pensées sont justes plutôt que la volonté de Dieu, et dans ce processus, les conflits s'aggravent. Cependant, lorsque le but de l'Église devient flou et que les opinions personnelles, les émotions, les intérêts et l'honneur en deviennent le centre, des conflits surviennent. Dans de tels cas, les gens essaient de prouver que leurs propres pensées sont justes plutôt que la volonté de Dieu, et dans ce processus, les conflits s'aggravent. Cinquièmement, Satan provoque également des conflits pour ébranler l'Église de Dieu. La Bible dit que l'une des diverses manières dont Satan attaque l'Église de Dieu est par la division et le conflit. Lorsque l'Église de Dieu essaie de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et de transmettre la volonté de Dieu, Satan essaie non seulement d'attaquer l'Église de l'extérieur, mais aussi de les faire se battre les uns contre les autres de l'intérieur. Par conséquent, la Bible exhorte les saints à ne pas s'opposer les uns aux autres, mais à s'efforcer de garder l'unité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, le fait important est le suivant. Des conflits peuvent survenir au sein de l'Église, mais l'Église établie par Dieu est à l'origine une communauté qui devient une dans l'Évangile de Christ. Éphésiens 4 dit aux saints, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. » Éphésiens chapitre 4, verset 3. Lorsque le centre de l'Église est sur la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, les conflits diminuent et l'Église de Dieu peut être établie à nouveau comme une. En fin de compte, la plus grande raison pour laquelle des conflits surviennent dans l'Église de Dieu est lorsque l'homme prend le dessus sur Dieu. Cependant, lorsque le centre de l'Église revient à nouveau à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de Jésus-Christ, les conflits et les disputes disparaissent et l'Église peut être restaurée dans sa forme originelle en tant que communauté qui est le corps de Dieu. Au sein de l'Église de Corinthe, des conflits ont surgi en disant « Je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Céphas et je suis de Christ ». À cela, Paul demande fermement « Christ est-il divisé ?» La racine de ce conflit est due au fait que la norme de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, l'Évangile de vérité dans lequel Jésus a été baptisé par Jean, a reçu le transfert des péchés du monde, a reçu le jugement des péchés sur la croix et a accompli le salut pour ceux qui croient, a vu son centre d'intérêt déplacé vers un autre côté. La raison pour laquelle Paul a dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile ». 1 Épître aux Corinthiens chapitre 1, verset 17, était que le but devait être placé sur la prédication de la parole évangélique de l'eau et de l'Esprit. C'est parce que des factions ont surgi en raison des relations avec chaque évangéliste. Ce contre quoi Paul met en garde, c'est la foi qui élève l'homme et l'illusion qui vient de la tentative de corrompre la parole évangélique de l'eau et de l'Esprit, avec la philosophie et la rhétorique humaine. C'est parce qu'ils ne se sont pas accrochés à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est-à-dire la parole évangélique selon laquelle Jésus a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, et a versé son sang sur la croix pour accomplir notre salut. Les saints peuvent tomber dans le péché qui vient du fait d'être influencés par le caractère et l'éloquence de l'évangéliste en respectant le discours de cette personne plus que la puissance de la parole évangélique. Nous devons connaître ce fait. Quelle est la relation entre l'évangile de l'eau et de l'esprit et la parole de la croix? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 25. L'évangile de l'eau et de l'esprit et la parole de la croix ne sont pas des évangiles différents. Il nous dit que ces deux sont liés comme une structure en deux étapes qui accomplit un seul salut. En d'autres termes, si l'évangile de l'eau et de l'esprit est une structure qui englobe tout le ministère rédempteur de Jésus-Christ, la parole de la croix pointe vers le ministère du jugement des péchés où ce ministère rédempteur est achevé. Ces deux ne peuvent être séparés l'un de l'autre, et ce n'est que lorsqu'ils sont compris ensemble que la parole évangélique de l'eau et de l'esprit est pleinement révélée. Premièrement, l'eau dont parle l'évangile de l'eau et de l'esprit pointe vers le ministère où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15, alors que Jésus était baptisé par Jean-Baptiste, il a dit « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste ». Le baptême que Jésus a reçu de Jean n'était pas une simple cérémonie, mais un événement au cours duquel les péchés du monde ont été transférés sur le corps de Jésus. Tout comme un pécheur dans l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament posait les mains sur l'offrande sacrificielle pour transmettre ses péchés, Jésus a transféré tous les péchés de ce monde sur son propre corps, une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean. Il est dit que ce ministère du baptême était le ministère de Jésus qui a transféré les péchés du monde sur le corps de Jésus. L'événement qui apparaît ensuite est exactement la parole de la croix. Après que Jésus a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême donné par Jean, il a été crucifié, a versé son sang et a été mis à mort. La croix n'est pas un simple symbole de souffrance, mais le lieu où le jugement de Dieu a été exécuté sur les péchés du monde qu'il avait déjà pris sur lui par le baptême. C'est-à-dire que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la structure du salut dans laquelle les péchés du monde sont transférés sur le corps de Jésus par le baptême et la punition pour ces péchés est achevée sur la croix. La relation entre l'évangile de l'eau et de l'esprit et la parole de la croix peut être expliquée ainsi. Le baptême que Jésus a reçu de Jean est l'événement où les péchés du monde sont transférés sur le corps de Jésus et la croix est l'événement où le jugement pour ces péchés est accompli. Ici, s'il n'y avait pas le ministère du baptême que Jésus a reçu de Jean, le jugement des péchés ne serait pas accompli sur la croix, de sorte que la rédemption ne pourrait pas être achevée. Lorsque les deux événements sont réunis, la rédemption de Jésus-Christ est achevée en nous par la foi. L'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par les apôtres est également compris dans cette structure. Dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste a témoigné en montrant Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les apôtres, y compris Pierre et Paul, ont également proclamé l'événement de Jésus étant baptisé par Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, mourant sur la croix et ressuscitant. C'est-à-dire que l'évangile de l'eau et de l'esprit a été achevé par l'événement de Jésus prenant sur lui les péchés du monde, par le baptême et l'événement de lui recevant le jugement pour ses péchés sur la croix s'accomplissant ensemble. De plus, 1 Épître de Jean chapitre 5 verset 6 dit « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. » Ici, l'eau et le sang pointent vers le baptême que Jésus a reçu de Jean et le sang de la croix, et cela témoigne que le ministère rédempteur de Jésus a été accompli par l'eau et le sang. C'est exactement le fondement biblique selon lequel l'évangile de l'eau et de l'esprit et la parole de la croix sont liés l'un à l'autre. En fin de compte, l'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile qui explique l'intégralité du ministère rédempteur de Jésus-Christ. Et la parole de la croix parle de la vérité du jugement des péchés où ce ministère rédempteur a été achevé. Jésus a été baptisé par Jean pour prendre sur lui les péchés du monde et en étant pendu sur la croix pour recevoir la punition pour les péchés du monde, il a terminé le jugement des péchés. Et il a témoigné que notre salut a été achevé par la puissance de Dieu qui est ressuscité de la mort. Ainsi, ces deux ne sont pas des messages différents mais deux aspects qui composent un seul évangile. Si l'évangile de l'eau et de l'esprit montre la structure entière de la rédemption, la parole de la croix montre comment cette rédemption a été achevée. Par conséquent, lorsque ces deux vérités sont comprises ensemble, nous pouvons pleinement réaliser comment Jésus-Christ a personnellement pris sur lui les péchés de l'humanité et a accompli ce jugement sur la croix pour sauver les pécheurs. Dans cette partie, Paul témoigne, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18. La parole de la croix, dont il était question ici, n'est pas une vérité qui parle simplement uniquement de l'événement de la croix, mais elle parle de l'évangile de la croix en impliquant la parole de vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui pénètre l'ensemble des Bibles de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est-à-dire que l'ensemble du ministère de Jésus étant baptisé par Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, recevant le jugement pour ses péchés sur la croix et ressuscitant de la mort pour nous sauver, est exprimé par l'expression « la parole de la croix ». Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse, mais ceux qui croient en la justice de Dieu font l'œuvre d'être satisfaits et de servir l'évangile du salut accompli par le ministère du baptême que Jésus a reçu de Jean et par la punition de la croix. Cela montre que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas un système religieux qui satisfait les exigences humaines, mais se manifeste comme la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui prend en charge les péchés d'une personne, les efface et la sauve une fois pour toutes. Qui sont ceux que Dieu a appelés et à qui il a donné le salut du péché? Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 31. Ceux que Dieu appelle et sauve font référence à ceux dans la Bible qui répondent à l'appel de Dieu et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible n'explique pas le salut comme un résultat que les humains obtiennent par eux-mêmes, mais dit que Dieu appelle en premier et que ceux qui répondent à cet appel avec foi reçoivent le salut. Premièrement, ceux qui font l'objet de l'appel de Dieu sont les pécheurs. Dans Marc chapitre 2, verset 17, Jésus a dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent de bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Cette parole signifie que ceux que Dieu sauve ne sont pas ceux qui se considèrent comme justes, mais ceux qui reconnaissent le fait qu'ils sont pécheurs. Une personne qui ne prend pas conscience du fait qu'elle est pécheresse ne ressent même pas le besoin de salut. Mais une personne qui prend conscience de son péché obtient le salut accordé par Dieu. De plus, les personnes que Dieu appelle sont celles qui acceptent la parole évangélique de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. Romains chapitre 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dieu appelle les gens par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque l'évangile est proclamé, certaines personnes prennent conscience du fait que c'est le salut dont Dieu parle, et elles reçoivent le salut par la foi qui croit. Ce sont précisément ces personnes qui répondent à l'appel de Dieu. La Bible dit aussi qu'ils sont ceux qui répondent à l'appel que Dieu lance. Romains chapitre 8, verset 30 déclare « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Cela signifie que Dieu le Père a fait de ceux qui acceptent le Seigneur, qui a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean et qui a reçu le jugement des péchés pour sauver les croyants, le peuple de Dieu. De plus, les personnes que Dieu appelle sont celles qui ont un cœur humble devant la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleuses et fait grâce aux humbles. C'est-à-dire que cela fait référence à une personne qui reconnaît le fait qu'elle était pécheresse devant Dieu. Une telle personne accepte dans son cœur que le baptême que Jésus a reçu de Jean et le sang de la croix étaient de l'amour de Dieu pour l'effacement de ses péchés. Cependant, une personne qui se considère comme juste a du mal à accepter le salut de Dieu. Et les personnes que Dieu appelle sont celles qui croient au salut accompli par Jésus-Christ. Dieu n'appelle pas les gens à vivre une vie religieuse au sein de la chrétienté. Dieu le Père dit qu'il a donné le salut à ceux qui croient en l'amour du salut où Jésus a été baptisé par Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui et a été pendu sur la croix pour recevoir le jugement des péchés. Dieu le Père nous appelle dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, les apôtres ont prêché la parole évangélique de l'eau et de l'esprit aux gens et les ont exhortés à croire en cet évangile. En fin de compte, ceux que Dieu appelle et sauve ne sont pas des personnes ayant des capacités ou des mérites particuliers, mais les personnes suivantes. Une personne qui réalise qu'elle est pécheresse. Une personne qui entend la parole évangélique de l'eau et de l'esprit et l'accepte avec foi en y croyant dans son cœur. Et une personne qui a un cœur humble devant Dieu, c'est-à-dire des personnes qui s'appuient sur la parole évangélique de la vérité du salut accompli par Jésus-Christ. Ces personnes ne sont pas celles choisies selon des critères humains, mais des personnes qui acceptent la parole évangélique de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. Par conséquent, la Bible dit que ce ne sont pas ceux qui peuvent se vanter de leur propre justice, mais ceux qui croient en la justice de Jésus, qui a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême et a été pendu sur la croix, qui sont devenus le peuple de Dieu. Dieu appelle les gens par la parole évangélique de l'eau et de l'esprit. Et il reconnaît les personnes de foi qui ont répondu à cet appel comme son peuple. Paul continue ensuite en disant que, pour choisir les choses folles du monde afin de confondre les sages, Jésus a été baptisé par Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui et a reçu le péché et le jugement sur la croix pour nous sauver. C'était pour montrer que le fondement du salut repose entièrement sur la justice de Dieu. En fin de compte, Paul conclut par ces mots que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Une personne qui croit en la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne se vante pas de son propre zèle, ne se vante pas de ses connaissances théologiques et ne se vante pas d'expériences personnelles particulières. Sa seule fierté est de témoigner par la parole qu'elle est une croyante qui croit que Jésus-Christ a été baptisé par Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui et qu'il a reçu tout le jugement pour ses péchés sur la croix pour donner le salut aux croyants. Le message central du chapitre 1 de 1 Épître aux Corinthiens est que le salut du péché a été reçu par l'œuvre de l'évangile de l'eau et de l'esprit. En considérant les choses ainsi, la parole du chapitre 1 de 1 Épître aux Corinthiens est un chapitre qui rétablit la parole évangélique de l'eau et de l'esprit. Dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la croix n'est pas un évangile séparé du ministère du baptême que Jésus a reçu de Jean et le Saint-Esprit. Et celui qui fait que l'évangile de l'eau et de l'esprit, déjà accompli, soit puissamment témoigné dans le monde. La division de l'Église a toujours commencé à apparaître lorsque les gens ont perdu la parole évangélique de l'eau et de l'esprit. Cela est clairement confirmé dans l'histoire. Dans le symbole de Nicée, établi en 325 après Jésus-Christ, le ministère du baptême, où Jésus a été baptisé par Jean et a reçu le transfert des péchés du monde, a fini par être omis. Et par conséquent, la chrétienté médiévale est devenue profondément corrompue spirituellement au cours de 1000 ans. Par conséquent, quel est l'évangile de la croix en lequel vous croyez? Est-ce vraiment la parole évangélique de l'eau et de l'esprit dans laquelle Jésus-Christ a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et a reçu le jugement des péchés sur la croix? Un sermon de Paul Sijong, 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 1. Bien-aimés saints, aujourd'hui, à travers la parole du chapitre 1 de 1 Épître aux Corinthiens, nous allons examiner en profondeur quelle est la vérité de l'évangile que Dieu nous a donné et comment cet évangile se distingue de la sagesse humaine. Cette parole n'est pas une simple explication doctrinale, mais la voix de Dieu qui révèle clairement ce que nous devons croire pour parvenir au véritable salut. Premièrement, l'apôtre Paul se présente comme appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. C'est une déclaration très importante. L'évangile n'est pas une idéologie religieuse créée par l'homme, mais un évangile fait de la vérité du salut planifié par Dieu. Par conséquent, la vérité de l'évangile en laquelle nous croyons doit également reposer non pas sur l'expérience ou l'émotion humaine, mais sur le plan du salut accompli par Dieu. Quel est exactement ce plan de salut ? C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit achevé par le fait que Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, a reçu le jugement des péchés sur la croix et est ressuscité des morts. Paul dit à l'église de Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Cela signifie que nous sommes devenus saints en recevant l'enlèvement des péchés par la foi en l'évangile du salut en Jésus-Christ. Comment sommes-nous devenus ceux qui sont revêtus de la sainteté de Dieu ? Cette sainteté n'a pas été obtenue par des œuvres humaines, mais elle est possible parce que Jésus a reçu le baptême de Jean, a reçu le transfert des péchés du monde, a reçu le jugement des péchés sur la croix, est ressuscité des morts et est devenu notre Sauveur. Par conséquent, la sainteté des saints est la sainteté obtenue par la foi qui croit en la parole de vérité du salut déjà achevé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, il y avait des divisions au sein de l'église de Corinthe. Les gens étaient divisés, certains disant appartenir à Paul, d'autres à Apollos et d'autres à Céphas. Paul réprimande fortement ces divisions. Parce que leurs yeux s'étaient détournés de la volonté du Seigneur du salut, il en va de même aujourd'hui. Lorsque les gens mettent l'accent uniquement sur la croix, plutôt que sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, ou mettent l'accent uniquement sur leur propre dénomination pour ne suivre que les dirigeants de la chrétienté mondaine, la division finit par se produire. La raison en est qu'ils ont perdu le discernement pour distinguer au sein de la foi qui connaît et croit la structure de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul parle clairement « Christ est-il divisé ? L'évangile que le Seigneur a donné est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens l'appellent l'évangile de la croix » parce que la croix est le lieu où les péchés du monde ont été jugés grâce au baptême que Jésus a reçu de Jean. Cependant, l'évangile véritable dont Jésus a parlé est l'évangile selon lequel il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Jean chapitre 3, versets 3 à 5, Matthieu chapitre 3, versets 15 à 17. L'évangile de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit est la vérité complète du salut, où les ministères de Jésus recevant le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui. Recevant le jugement pour ses péchés sur la croix et ressuscitant des morts, sont liés en un seul. Si l'on ne connaît pas la structure de ces deux ministères, une personne restera inévitablement dans une parole évangélique partielle et finalement ne recevra pas la résolution complète de son problème de péché. Par conséquent, pour obtenir le véritable salut, il faut croire cette parole évangélique de l'eau et de l'esprit dans son cœur. Dans les paroles suivantes, l'évangile que Paul a prêché ne pointe pas simplement uniquement vers la croix. L'événement de Jésus prenant sur lui les péchés du monde en recevant le baptême, l'événement d'être jugé sur la croix avec ses péchés et l'ensemble du ministère du salut achevé par la résurrection des morts constituent exactement l'évangile que Paul a prêché. C'est-à-dire que Paul a prêché l'évangile où Jésus a reçu le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui et a reçu le jugement pour ses péchés sur la croix, ce qui est le message de la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors pourquoi cet évangile de l'eau et de l'esprit paraît-il insensé aux gens ? C'est parce qu'il est difficile à comprendre avec la sagesse humaine et ne peut être compris avec des doctrines religieuses. L'homme essaie de devenir juste par ses propres œuvres et essaie d'aller devant Dieu par ses propres efforts. Cependant, la méthode de salut planifiée par Dieu est complètement différente des pensées humaines. C'est parce que Jésus a complètement mis fin à notre problème de péché en recevant le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, et en mourant après avoir reçu la punition pour ses péchés sur la croix. Par conséquent, il n'y a rien d'autre que nous devions faire que d'être sauvés du péché en croyant cette parole évangélique de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Ainsi Paul dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ». Cet évangile de l'eau et de l'esprit renverse complètement la vantardise humaine. Il rend impossible de dire que j'ai été sauvé en faisant quelque chose. Cela signifie que seule la foi qui croit au baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean et au sang de la croix nous sauve de tous les péchés. Bien-aimés, le message central que nous donne le chapitre 1 de 1 Épître aux Corinthiens est celui-ci. Le salut d'un pécheur ne s'obtient pas par la sagesse humaine ou les doctrines enseignées par sa dénomination. Le salut s'obtient par la foi qui croit en la parole de vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit planifié par Dieu. Et si cet évangile de vérité n'est pas connu avec précision, des divisions surgiront même au sein de l'Église. Et la foi dérivera progressivement pour devenir centrée sur l'homme et centrée sur la religion. Enfin, Paul déclare ainsi « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » C'est l'incroyable parole évangélique de vérité. Notre justice, notre sainteté et notre rédemption sont toutes dans le ministère du Seigneur, qu'il a accompli en recevant le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, en recevant le jugement pour ses péchés sur la croix et en ressuscitant des morts. En d'autres termes, par le sacrifice et la résurrection où Jésus a pris sur lui les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et a terminé le jugement pour ses péchés sur la croix, tous les péchés de ceux qui croient ont été résolus en une seule fois et le salut a été achevé. À savoir, le salut de tous nos péchés est déjà complètement inclus dans le ministère de salut de Jésus-Christ. Par conséquent, notre foi ne doit pas en rester à « que dois-je faire ?». Elle dépend plutôt de « Jésus a-t-il reçu le transfert de nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean ? A-t-il reçu le jugement pour ses péchés sur la croix ? Et est-il ressuscité des morts ?» Nous devons connaître et croire le fait que Jésus a reçu le transfert des péchés du monde sur son propre corps en recevant le baptême de Jean. Et nous devons avoir la foi qui croit que Jésus, qui a reçu le transfert des péchés du monde, a reçu la punition pour ses péchés sur la croix et est ressuscité des morts. Ce n'est que lorsque nous croyons cette parole évangélique de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs que nous recevons le salut du péché. Bien-aimés saints, si le péché demeure encore dans votre cœur, c'est parce que vous n'avez pas pleinement connu les deux structures de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La première structure est le ministère où Jésus a reçu le transfert des péchés du monde en recevant le baptême de Jean, et la deuxième structure est le ministère où Jésus est devenu notre Sauveur en recevant la punition pour ses péchés sur la croix et en ressuscitant des morts. Nous devons naître de nouveau précisément par cet évangile de l'eau et de l'esprit. Et par la foi qui croit à cette parole évangélique de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, nous devons croire fermement au fait que nous ne sommes plus des pécheurs, mais que nous sommes devenus des personnes justes, sauvées du péché. Maintenant, nous devons nous détacher de la vantardise dans les dénominations chrétiennes et nous glorifier dans le baptême de Jésus-Christ et le sang de la croix. En nous accrochant fermement à cette parole, comme la confession de Paul, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, nous devons devenir ceux qui sont sauvés par une foi inébranlable uniquement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vivre en suivant le Seigneur et ensuite rencontrer le Seigneur. J'espère que cette parole évangélique de l'eau et de l'esprit prend clairement racine dans vos esprits dès maintenant. Et je prie pour qu'à travers cet évangile, vous soyez devenus ceux qui jouissent d'une foi véritable et de l'assurance du salut. Alléluia.